VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, aucune date n'a été précisée pour l'adresse très attendue du président Joseph Kabila hier à l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement congolais.
Au Cameroun, lancement d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence de plus de 12 milliards de dollars pour les régions anglophones.
Au Niger, l'opposant Ama Amadou, qui vit en exil en France, a été déchu mercredi de son poste de député.
Ici aux États-Unis, changement de position du président Donald Trump. Il a mis fin à la séparation des enfants de leurs parents sans papier à la frontière avec le Mexique.
Et ne manquez pas le journal de la Coupe du Monde.
Pour l'instant, l'actualité en Afrique et dans le reste du monde.
En République démocratique du Congo, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont réunis hier en congrès à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement. Aubin Minaku, le président de la Chambre basse, a annoncé dans son discours que le président Joseph Kabila devrait s'adresser à la nation dans les prochains jours. De nombreux projets de loi doivent être examinés au cours de cette session de juin. De Kinshasa, les précisions de notre envoyé spécial John Lyndon.
Le projet de loi portant statut des anciens présidents de la République est celui dont on parle le plus ici. Il est censé donner une immunité aux anciens présidents élus. Le projet en question insiste sur élus. Et lorsqu'on sait que jusqu'ici la RDC n'a connu que 4 présidents et que 3 sont morts, on devine aisément que le premier bénéficiaire de ce projet de loi, s'il est adopté et promulgué, ne sera bien sûr que le président Joseph Kabila. Le président Kabila qui doit d'ailleurs s'adresser à la nation dans les prochains jours. Aucune indication a été donné sur la date de cette adresse. On sait toutefois que ce sera devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Parmi les autres projets de loi qui seront débattus par les législateurs congolais, celui portant statut particulier du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits humains. On parle aussi ici du remplacement de certains membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dont le rôle sera crucial lors des élections à venir, y compris la présidentielle de décembre prochain. Et à ce propos, Aubin Minaku a exhorté les Congolais à tout faire pour que ce scrutin se déroule dans la paix. John Lyndon, Kinshasa, VOA Afrique.
Et nous reviendrons sur cette session extraordinaire du Parlement congolais en seconde partie de cette édition.
Au Cameroun, 74 militaires et 7 policiers ont été tués depuis le début du conflit fin 2017 qui oppose les séparatistes armés et les forces de défense et de sécurité dans les régions anglophones du pays. C'est ce qui ressort d'un document officiel obtenu par l'AFP mercredi. Plus de 100 civils ont également été tués par les séparatistes armés au cours des 12 derniers mois, indique ce document du gouvernement qui détaille un plan d'assistance humanitaire d'urgence pour ces 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Plus de 120 cas d'incendies d'écoles par les séparatistes ont aussi été recensés selon ce document. Les séparatistes ont, à plusieurs reprises, appelé à boycotter les établissements scolaires et s'en prennent à ceux qui ne respectent pas cet appel.
Ce plan d'assistance humanitaire d'urgence de plus de 12 milliards de dollars a été lancé hier par le Premier ministre camerounais, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Junta.
Le gouvernement camerounais se donne 18 mois pour répondre aux besoins humanitaires de plus de 105 000 personnes, des déplacés internes, des victimes d'exactions dans les localités du nord et du sud-ouest, les communautés hôtes et les Camerounais réfugiés dans 4 États au Nigeria suite à la crise anglophone. Pendant les 3 mois à venir, pas moins de 10 milliards de francs CFA vont être déboursés pour certaines actions dites urgentes du plan, à savoir les équipements de première nécessité, les denrées alimentaires, les logements, de l'eau ou encore le renforcement de la sécurité et les visites de réconfort aux réfugiés camerounais du Nigeria. Plus d'une dizaine d'administrations du Cameroun, en plus des organismes internationaux, seront mobilisés pour ce plan d'assistance humanitaire d'urgence sous la coordination du ministre anglophone Paul Atanganji. En mai dernier, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires, OCHA, avait manifesté l'intention de coordonner un plan de réponse d'urgence en zone anglophone en collaboration avec les partenaires humanitaires internationaux. Le Cameroun vient de décliner l'offre onusienne, préférant plutôt un plan dirigé par les Camerounais eux-mêmes. Yaoundé, Emmanuel Julunta, VOA Afrique.
Quelques 16 000 déplacés civils ont été enregistrés depuis janvier dans l'ouest du Niger, une zone instable frontalière du Mali et théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad, qui donne ces chiffres, a parlé spécifiquement des régions de Tillabéri et de Tawa.
Toujours au Niger, l'opposant Amadou, qui vit en exil en France, a été déchu mercredi de son poste de député après sa condamnation à un an de prison pour un trafic de bébés au Niger, et ce, dans un arrêt rendu mercredi par la Cour constitutionnelle nigérienne. Ama Amadou, ancien Premier ministre et ex-président du Parlement, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, avait été condamné par contumace à un an de prison en mars 2017 pour recel d'enfants dans une affaire de trafic international de bébés. En avril dernier, la Cour de cassation du Niger a rejeté son pourvoi, rendant sa condamnation définitive.
Au Nigeria, procès du leader du mouvement islamiste du Nigeria, Cheikh Zakzaki, devant une haute cour fédérale à Kaduna, dans le nord du pays. Il est accusé d'avoir tenté d'assassiner le chef des forces armées nigérianes, Tukur Baratai. Le point avec notre correspondant Gilbert Tamba.
Tout a commencé le 12 décembre 2015, alors que le chef d'état-major des forces armées nigérianes, Tukur Buratai, s'est rendu à une cérémonie de recrutement de soldats dans une garnison de Zaria. En route, son convoi est bloqué par une procession du mouvement islamique du Nigeria. Selon l'armée, des membres de ce mouvement chiite ont monté des barricades, puis ont commencé à jeter des pierres contre le convoi et la garde rapprochée du général a riposté en ouvrant le feu. Le bilan de cette confrontation, 7 personnes tuées parmi les membres du mouvement islamique du Nigeria. Le chef religieux Ibrahim Zakzaki et son mouvement contestent cette version des faits. Par la suite, le leader du mouvement islamique du Nigeria a été arrêté et se trouve depuis en détention dans une prison à Abuja, la capitale fédérale. Cheikh Ibrahim Zakzaki sera jugé en compagnie de sa femme et des autres dirigeants de son mouvement. Le groupe a dans un communiqué condamné le procès qu'il considère comme une parodie de justice. Dans les années 80 et 90, Ibrahim Zakzaki a déjà été incarcéré plusieurs fois. Il dirige une organisation chiite minoritaire dans un pays où la majorité des musulmans sont sunnites. Lors d'une manifestation à Kaduna au nord du pays, l'armée nigériane avait donné l'assaut contre les militants de ce groupe chiite, tuant selon le gouvernement quelques 300 membres du mouvement, mais le groupe parle de plus d'un millier de ses partisans tués par l'armée. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a signé hier un décret mettant fin à la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique. Le point avec Bagassi Koura.
Cela me tient particulièrement à cœur. Nous n'aimons pas voir des familles séparées, a affirmé Donald Trump en signant le décret dans le bureau ovale. Quelques heures plus tôt, à la surprise générale, le président américain avait annoncé qu'il allait mettre fin à cette pratique qui lui a valu beaucoup de critiques, y compris au sein de son propre camp. Nous allons avoir des frontières très fortes, mais nous allons garder les familles ensemble, a encore dit le président Trump, qui a lui-même décrété début mai une tolérance zéro sur l'immigration illégale qui s'est traduite par la séparation des familles. Plus de 2300 enfants ont été séparés de leurs parents après leur arrestation à la frontière sud. Je pense que toute personne avec un cœur réagirait de la même manière, a-t-il ajouté, soulignant que sa fille Ivanka et sa femme Melania étaient montées au créneau sur le même sujet.
Au Yémen, les rebelles Houthis ont continué à résister aujourd'hui aux forces gouvernementales appuyées par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite après avoir perdu la veille le contrôle de l'aéroport de Hodeïda. Cette ville est essentielle pour l'entrée des aides humanitaires et on craint pour le sort des civils. Les combats se déroulent désormais sur la grande artère menant au port de Hodeïda sur la mer Rouge après que les rebelles se sont repliés vers des quartiers du sud et de l'ouest de cette ville de 600 000 habitants, selon une source militaire yéménite.
Et c'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Nous passons maintenant au sport et c'est bien entendu la Coupe du Monde avec Yacouba Ouédraogo.
Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du Mondial. Que de regrets pour le Maroc. Malgré une prestation aboutie, les Lions de l'Atlas sont d'ores et déjà éliminés de la Coupe du Monde Russie 2018 suite à leur seconde défaite consécutive. La faute à un Cristiano Ronaldo encore décisif pour le Portugal 1-0. C'est l'entame de match qui aura coûté aux hommes d'Hervé Renard. Sur un corner, Cristiano Ronaldo libre dans les 6 mètres a surgi pour tromper le gardien Mounir de la tête à la 4e minute. Le 4e but du Portugal dans la compétition. Le Maroc a pourtant présenté quelques références avec comme capitaine le puissant Mehdi Benarsia, le madrilène Achraf Hakimi ou l'ancien monégasque Nabil Dira. Le Maroc a couru derrière le score durant toute la rencontre sans parvenir à trouver la moindre faille. Écoutons le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, qui s'est exprimé juste après le match.
C'est sûr que c'est plus facile de jouer avec un joueur qui a une occasion dans le but et puis qui la met au fond. Mais on est au Maroc. Il y a des joueurs de qualité. Malgré les péripéties de ce match, il aurait fallu être beaucoup plus efficace parce que comme dans le premier match, on a de nombreuses opportunités. Donc ça, on ne peut le reprocher à personne. C'est le football, c'est toujours ceux qui savent être présent dans la surface de réparation, les plus efficaces, les joueurs souvent les plus doués qui font la différence. On a osé, on a joué offensivement contre une équipe qui excelle en contre-attaque, donc il faut prendre des risques. On en a pris beaucoup, on n'a pas été récompensé.
Mathématiquement, le Maroc n'ira pas plus loin que le premier tour de ce mondial russe, son premier depuis 1998. Le sélectionneur tire déjà le bilan de son parcours avec les Lions de l'Atlas, Hervé Renard.
La chose dont je suis sûr, à l'heure où l'on parle, c'est que tout le peuple marocain est fier de son équipe, et même très fier de son équipe. Il y a 2 ans et demi, on a commencé une aventure ensemble. On était 81e mondial. Aujourd'hui, je crois qu'on est 41e. On a réussi à se qualifier pour une Coupe du Monde après 20 ans d'abstinence pour le Maroc. Et les 2 matchs qu'on a fait, on a montré qu'on était une équipe qui jouait au football. Alors certes, on n'a pas été efficace. Et je voudrais juste que vous ayez la franchise de l'écrire et que vous écriviez la vérité.
Après donc l'Égypte mardi, c'est au tour du Maroc d'être éliminé. De quoi inspirer le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Les premiers matchs de la 2e journée confirment depuis mardi l'élimination de 2 équipes d'Afrique du Nord après les faux pas regrettables de la 1e journée qui ont vu l'Égypte puis le Maroc perdre au temps réglementaire des joutes pourtant équilibrées contre une équipe d'Iran négligée et une sélection uruguayenne maîtrisée. L'Égypte a dû jouer sa survie face à une Russie retrouvée dominatrice par 3-1. Le fait de match étant ce premier but de l'idole continentale Mohamed Salah en fin de rencontre. De son côté, le Maroc souverain en 2e mi-temps devant le Portugal de Cristiano Ronaldo a subi l'inévitable but du monument au début de la rencontre avant de montrer ses réelles capacités 60 minutes durant. Il est en fait certain que la représentation de l'Afrique du Nord en Coupe du Monde ne se pose plus en termes de production. La situation géographique à la porte de l'Europe, l'implantation plus ancienne du football dans cette partie du continent, ainsi que son organisation plus moderne, lui permettent de tutoyer le monde développé et d'avoir un passage digne et rassurant lors des grands rendez-vous mondiaux. De ce fait, même si l'élimination de l'Égypte et du Maroc est pratiquement certaine, une bonne prestation de la Tunisie face à la Belgique et la poursuite de la performance sénégalaise peuvent encore sauver la participation du continent en prime dans toute sa diversité d'expression footballistique. Alors, tous derrière nos champions encore en lice et que la fête continue.
Dans l'autre rencontre du groupe B, l'Espagne a percé le mur persan. L'Aurora a souffert, mais elle a trouvé la clé contre l'Iran 1-0 sur un but chanceux de Diego Costa, rejoignant le Portugal en tête de la poule B et se rapprochant des 8e. Dans le 2e match d'hier, dans le groupe A, les 8e de finalistes sont connus. L'Uruguay a rejoint le pays hôte, la Russie, après sa victoire 1-0 devant l'Iran. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Luis Suarez à la 23e minute. Ce jeudi, la France de Paul Pogba et l'Argentine de Lionel Messi retournent au combat contre le Pérou et la Croatie avec des objectifs bien différents. Les Bleus peuvent déjà accrocher un ticket pour les 8e de finale en 4 victoires et qui ont laborieusement remporté leur premier match face à l'Australie. Écoutons Raphaël Varane, un des défenseurs de l'équipe de France.
On sait qu'il y a des choses à améliorer. On sait aussi l'adversaire qu'on va avoir. Et on sait que c'est un adversaire qui va justement mettre beaucoup, beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils vont faire. Il va falloir être justement plus près les uns des autres sur le terrain, plus proche dans la façon de défendre, que ce soit haut sur le terrain ou bas. Il va falloir être plus compact.
L'Albi Céleste, elle, espère tout simplement rester en vie dans cette Coupe du Monde. Et sa star, Lionel Messi, voudrait sans doute se racheter après son pénalty raté. France-Pérou, c'est à 15h temps universel et à 18h, on aura la rencontre Argentine-Croatie. Bien avant ces deux matchs, à midi temps universel, le Danemark fera face à l'Australie. Et c'est là qu'on s'arrête pour ce journal du Mondial.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudière. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la session extraordinaire du Parlement de la République démocratique du Congo avec au menu l'examen d'un projet de loi sur le statut des anciens présidents de la République élus. Le président Joseph Kabila doit également s'adresser à la nation devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Mais que va-t-il dire à 6 mois des élections? Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a recueilli quelques avis à ce sujet.
1 mois de travaux et d'importantes lois à voter, notamment celles en rapport avec le statut des anciens présidents de la République élus, c'est ce qui attend députés et sénateurs qui sont en session extraordinaire depuis mercredi. Cette session sera également marquée par l'adresse du président de la République à la nation à travers le Parlement réuni en congrès. Mais que dira Joseph Kabila à 6 mois des élections, lui qui ne s'est toujours pas choisi un dauphin? Édouard Kiové, député de l'opposition, souhaite que le président Kabila confirme la tenue des élections au 23 décembre 2018 et rejette l'usage de la machine à voter.
Nous attendons du chef de l'État d'abord la tenue des élections dans les délais convenus dans l'accord, soit le 23 décembre 2018. Nous voulons aussi attendre parler du régime de la machine à voter, puisque ça pose problème aussi dans la classe politique congolaise. Aussi, nous attendons du chef de l'État de respecter la Constitution à ne plus se représenter au troisième mandat, puisque le troisième mandat n'est pas constitutionnel. C'est cela les grandes lignes que nous attendons du chef de l'État, puisque pour le moment, la population attend beaucoup les élections.
Henri Thomas Lokondo, député de la majorité présidentielle, attend de son côté des annonces fortes de Joseph Kabila. Il espère notamment que le président de la République va fixer l'opinion sur son statut à l'approche des élections.
Si le président a voulu qu'on puisse avoir cette session extraordinaire, et si dans cette session, il a pensé faire son discours sur l'état de la nation au milieu de l'année, parce que traditionnellement, c'est toujours vers la fin de l'année, c'est qu'il a des messages forts à nous donner. Maintenant, avec tout ce qui se passe, tant sur le plan interne qu'externe, le président a quelque part là, il y a un rendez-vous avec l'histoire. Je pense qu'il faut qu'il fixe définitivement l'opinion sur le processus électoral, sur son statut pour ce qui concerne les prochaines élections. Le président a toujours dit qu'il va respecter la Constitution pour ce qui concerne sa candidature. Bah, parce que, comme vous le savez, la Constitution ne lui autorise pas d'obliger un troisième mandat, mais là, il a toujours fait cette déclaration qui est juridique. Mais maintenant, je crois que les gens l'attendent sur le plan politique pour qu'il puisse clarifier davantage sa pensée sur ce que tout le monde dit, donner des messages qui sont de nature à calmer les esprits, qui sont de nature à établir la tranquillité et la paix nécessaire pour que nous puissions aller aux élections dans le calme.
Quelques Kinois interrogés par VOA Afrique souhaitent pour leur part que le président Kabila se désigne officiellement un dauphin et qu'ils disent clairement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession.
Nous attendons à ce qu'il puisse renoncer au troisième mandat et qu'il nous donne un dauphin de manière à ce que les élections se passent paisiblement.
Personnellement, Congolais que je suis, et avec la conjoncture actuelle, c'est que nous attendons de lui qu'il dise ouvertement s'il aura à se représenter ou pas. Parce qu'on en a marre de voir nos frères congolais en train de souffrir partout, dans des provinces, et avec son régime, jusque-là, on ne voit aucun changement. Qu'il désigne soit son dauphin, parce que s'il s'éternisait au pouvoir, donc tout le monde serait autorisé de violer la Constitution comme il veut.
Le message que le président de la République a toujours adressé à la population congolaise n'a jamais apporté un plus ou n'a jamais changé ce qu'il a toujours dit avec sa famille politique. Mais à moins que la population population congolaise attendent que le président de la République présente son dauphin afin qu'on puisse organiser les élections.
Mais nous aimerons que le chef de l'État qui parle, non, il va organiser l'élection et il ne sera pas candidat à la prochaine élection de 1. De 2, on est fiers de voir un ancien chef de l'État qui est sénateur à vie.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Morgane Guiriac en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, gros plan sur la République démocratique du Congo. À 6 mois des élections, le Parlement a ouvert une session extraordinaire ce mercredi à la demande du président Kabila. Et députés et sénateurs doivent débattre du projet de loi sur le statut des anciens chefs d'État, un texte qui pourrait garantir leur sécurité, celle de leur famille et de leur patrimoine. À l'approche des élections, que signifie ce projet de loi sur le statut des ex-présidents? Est-ce un signe que Kabila entend quitter le pouvoir? Le pays est-il prêt pour la tenue des élections? On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
La journée mondiale du réfugié qui tombe chaque année le 20 juin a été donc commémorée hier. Cette année, un nouveau record a été franchi. Plus de 68,5 millions de personnes ont été déplacées de force de leur pays d'origine. Ce sont les niveaux de déplacement les plus élevés jamais enregistrés. En juin 2016, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a lancé la pétition With Refugees pour tenter une meilleure prise de conscience des gouvernements, pour tenter d'encourager une meilleure prise de conscience des gouvernements face aux défis et à la détresse que vivent les réfugiés. Claire Morey-Gibourg a joint le porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest, Romain Desclos.
Pour nous, le HCR, la Journée mondiale des réfugiés, c'est aussi l'occasion de célébrer l'extraordinaire générosité des communautés, des individus qui accueillent ces personnes qui sont forcées de fuir. C'est l'occasion pour nous de rappeler à quel point cette solidarité est nécessaire. Pour la 5e année consécutive, nous avons atteint un chiffre record de personnes qui ont été forcées de fuir, personnes qui fuient des conflits, qui fuient la persécution. On a atteint, en fin 2017, le chiffre record de 68,5 millions de personnes forcées de fuir. C'est énorme. Ça fait 5 ans que ce chiffre atteint des records. Ça fait 5 ans que nous pensons que nous avons atteint un record et que nous devons pouvoir trouver des solutions. Ça fait 5 ans que ce n'est pas le cas. Donc ce chiffre est faramineux et il est étalé sur tous les continents.
Un certain nombre de ces crises sont sur le continent africain.
En effet, sur ces 60, la majorité, voire les deux tiers des personnes forcées de fuir, fuient des conflits de 10 pays. Ce qui veut dire qu'une solution sur l'un de ces pays aboutirait mathématiquement à une diminution du nombre de personnes forcées de fuir. Sur le continent africain, deux de ces crises les plus importantes sont la Somalie et sont le Sud-Soudan. Il crée des mouvements de population énormes. Il faut savoir que l'Afrique est un continent qui accueille le plus grand nombre de personnes forcées de fuir. C'est-à-dire on parle de 6,3 millions de réfugiés. C'est en avant même de l'Europe. L'Afrique subsaharienne, elle seule, a un accroissement de 1,1 million de personnes réfugiées. Donc le continent a encore des crises qui génèrent des réfugiés, des personnes forcées de fuir. Mais il faut aussi voir le fait que l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, est une région qui a la possibilité d'accueillir des réfugiés. En Afrique de l'Ouest, par exemple, nous avons 286 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Ce sont des personnes qui ont un accès à la protection internationale. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de faire, permettre aux personnes qui sont forcées de fuir d'avoir un accès à une protection internationale au plus proche des conflits, pour leur permettre d'éviter d'avoir à prendre des risques pour des trajets, prendre des chemins de migration mixte qui les amènent vers des dangers et des risques très importants.
Romain Desclous, porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest. Notre correspondant Christophe Kourounziza nous dit maintenant comment la journée des réfugiés a été commémorée au Burundi.
Journée mondiale des réfugiés célébrée dans le camp de Kavumu en province de Cyankuzo à l'est du Burundi, un des 4 camps qui compte plus de 16 800 réfugiés en provenance des pays de la région dont la majorité sont des Congolais. Des réfugiés au Burundi qui vivent difficilement, sans nourriture suffisante, sans soins de santé et où les médicaments deviennent une denrée rare. Mais le HCR indique que le problème est dû au financement qui se raréfie à cause de la crise que le pays traverse depuis 3 ans, crise qui est née du troisième mandat de l'actuel président président burundais qui a indiqué dernièrement qu'il ne va plus se représenter après les élections de 2020 et qui s'adonnera corps et âme pour soutenir celui qui sera élu. Pour les réfugiés et pour l'essentiel des Burundais, lier les deux bouts du mois devient impossible. Chaque mois, tout réfugié congolais devait percevoir sous forme d'aide 4000 francs burundais, soit l'équivalent de moins de 3 dollars américains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le ACR indique que sur 30 millions de dollars américains que les donateurs avaient accepté de donner, seuls 10 millions et demi de dollars ont été débloqués. Tous les réfugiés congolais demandent aux autorités et aux bienfaiteurs de trouver une solution à ce problème crucial. Signalons que plus de 300 000 réfugiés burundais vivent également dans les pays de la communauté est-africaine, dont la majorité vit en Tanzanie. Les Burundis traversent une crise socio-économique et politique sérieuse après le coup d'état manqué du 13 mai 2015 qui a poussé des milliers de Burundais à quitter le pays. Le président Pierre Nkurunziza appelle les réfugiés burundais à rentrer au pays car la paix est totale d'après lui, ce que démentent les opposants au régime de Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La République démocratique du Congo, quant à elle, héberge selon la CER plus de 540 000 réfugiés venus principalement du Rwanda, du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud. Au Sud Kivu, la Commission nationale pour les réfugiés, un service technique du gouvernement congolais, demande une plus grande assistance pour les réfugiés. Du Sud Kivu, reportage de notre correspondant Ernest Muhero.
Selon Augustin Boulimuntu, chef d'antenne de la Commission nationale pour le réfugié CNR Bukavu, à ces jours, plus de 80 000 réfugiés rwandais et burundais vivent au sud Kivu. Parmi eux, plus de 45 300 réfugiés burundais. Le ACR et la Commission nationale pour le réfugié CNR procèdent à l'enregistrement biométrique des réfugiés rwandais en territoire de Fizi et Mwenga. Selon Augustin Boulimuntu, un centre d'enregistrement biométrique est ouvert à cet effet à Minembwe.
Actuellement, la CNR en collaboration avec les ACR, nous sommes dans l'activité de récolte des données sur tablette et l'enregistrement biométrique dans le cadre des réfugiés rwandais. Parce que nous avons un grand nombre dans les territoires de Mwenga et les territoires de Fizi. Là, nos équipes sont descendues pour essayer d'enregistrer et remettre les attestations des réfugiés à ces réfugiés qui sont là. Pour les Burundais qui sont dans les camps de Lusenda et Mulongwe, ils sont déjà passés à l'enregistrement biométrique et on a remis les cartes. La communauté internationale, c'est toujours qu'on fait des plaidoyers pour venir en aide à cette catégorie de personnes qu'on a accueillies à bras ouverts. Parce que vous savez que si quelqu'un vit en dehors de chez soi, il est toujours à la quête de quoi vivre.
Notre source ajoute que depuis le début de l'année 2018, la CNR avec les ACR ont déjà rapatrié 170 réfugiés rwandais pour un total de 2100 rapatriés attendus. En 2017, 6597 réfugiés rwandais ont été rapatriés au Rwanda selon les ACR. La problématique des réfugiés dans la région des Grands Lacs est complexe. L'instabilité politique des part et d'autre des frontières dans la région du Grand Lac ont entraîné dans l'histoire de la région des mouvements de réfugiés. À Bukavu ou Viraeler environ, l'on assiste à un phénomène de réfugiés urbains qui certains font des études, d'autres vivent des travaux de débrouillardistes, le commerce, les travaux de construction, le service dans les hôtels et restaurants et la prostitution. Selon la CNR Bukavu, on compte environ une centaine de réfugiés burundais urbains à Bukavu. Dans la commémoration de la journée des réfugiés à Bukavu, les ACR et la CNR ont ouvert leur réflexion avec les humanitaires et le réfugié eux-mêmes sur l'avenir du réfugié et leur autonomisation au regard de la rareté des bailleurs de fonds de plus en plus observés pour venir en aide aux réfugiés en RDC. Ernest Mouero pour VOA Afrique, Bukavu.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Yeah,
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.